Radio Okapi.
Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ce journal de midi sur Radio Okapi. Je suis Gisèle Kaj à la présentation, commençons par les titres. Opération de démolition à la gare de Kintambo, plusieurs familles expulsées depuis ce week-end. Comment se déroule cette opération et quelles sont les réactions des personnes concernées? Découvrez les détails dans ce journal avec notre reporter sur place. Violence incessante en Ituri. Les miliciens de la Codeco et de Zaïre sèment la mort, tuant 3 personnes en 3 jours dans les territoires de Djougou. Des victimes abattues par balles lors des incursions à Mungwalou et une autre succombe aux tortures infligées par les miliciens de Zaïre. Les populations désemparées ne savent plus à quel sens se vouer. Tension armée dans les Kivu, Médecins sans frontières reste au service de la population malgré un contexte sécuritaire difficile. Le représentant pays de MSF en RDC appelle à un respect accru de travailleurs humanitaires et à une meilleure protection des civils. Ne manquez pas l'entretien exclusif avec Radio Okapi. C'est tout pour les titres. Vous écoutez ce journal sur Radio Okapi. Nous allons d'abord commencer avec cette information de braquage. Ce énième braquage survenu à Kinshasa. Cette fois, une agence de transfert d'argent située derrière la station Kobil de Lemba Terminus dans la commune de Lemba a été ciblée. Des bandits dont l'un était armé sont arrivés à moto et ont dérobé de l'argent, des téléphones portables, des clients présents, ainsi que d'autres biens des valeurs. Selon des témoins, l'incident s'est produit alors que l'agent effectuait des opérations de paiement. L'un d'eux témoigne au micro de Nassian Tambo.
Des fonds militaires se sont présentés ici à partir de 15h30. Avec 2 motos, ils étaient assis. Alors l'agence, c'est un agent intermédiaire de banque. Il paye les fonctionnaires. Il fait les transferts de MPSA, les transferts d'argent et tout ça. Alors on payait les militaires à 15h quand il y a eu la pluie et les gens se sont dispersés. Le nombre a diminué. Ils ont profité de cette occasion. 2 sont venus, ils ont tiré les balles en l'air. Alors, à côté, nous avons 3 ou 4 sous-siates. Alors, ils sont entrés à l'intérieur, ils ont pris tout, l'argent, les appareils, et ils ont sorti bonnement, en tirant encore, avec les 2 motos là-bas. Aucune intervention. Le moto ne courait même pas. Quand ils sont partis, on a vu maintenant les sous-siates venir intervenir 30 minutes après. Alors, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Ils ont tout emporté. Il n'y a pas eu mort d'homme, non.
Direction à présent Kitambo, magasin dans la commune d'Engalima. Toujours ici à Kinshasa, ce week-end, la ville a lancé une opération de démolition des constructions situées sur le terrain de l'Office national de transport au Natra et à la gare de Kitambo. Selon le ministre provincial de l'Environnement, de la propriété et de l'embellissement de Kinshasa, cette initiative vise à réaménager l'espace. Il accueillera bientôt une gare pour les trains ainsi qu'un arrêt pour véhicules et motos, ce qui contribuera à désengorger le carrefour des Kitambo magasins. Planté Yambenga est sur place à Kitambo. Bonjour Plotin, si vous nous suivez.
Bonjour Gisèle, nous sommes sur place à la gare de Kitambo.
Voilà, dites-nous quelle est la situation sur le terrain. Comment ça se passe les démolitions?
En tout cas ici, les travaux de démolition se sont arrêtés à la gare de Kitambo depuis hier. La tristesse est encore visible sur les visages de quelques parents trouvés sur les lieux. Ils disent avoir tout perdu. Certains ont déjà quitté les sites alors que d'autres continuent de surveiller leurs biens qui sont sous les débris. Et il faut aussi signaler que des sans-abri, communément appelés Chégué, profitent de la situation pour fouiller les débris, envie de retrouver quelques appareils électroménagers, notamment des toiles, des meubles, etc. Des objets qu'ils vont revendre plus tard. Et ces familles n'ont pas seulement perdu des biens, mais aussi leurs marchandises. Elles fustigent notamment le fait qu'elles n'ont reçu aucun avertissement avant les lancements de ces travaux de démolition, alors qu'elles disposent des documents livrés par l'ONATRA leur permettant d'occuper l'espace. Et d'après les informations qu'on a pu avoir auprès de quelques agents de l'hôtel des villes, les travaux vont se poursuivre peut-être demain. On a juste accordé un peu de temps à ces familles dont les maisons ont été détruites d'évacuer quelques biens qu'ils peuvent encore récupérer.
Mais combien de maisons actuellement ou bien d'établissements qui sont concernés par cette démolition? Si vous avez une idée.
En tout cas, jusqu'à ce moment-là, On n'a aucune idée, on n'a pas les chiffres, on n'a pas les statistiques. On a essayé d'aborder les agents de l'hôtel de ville Cantacé, mais ils ne nous ont pas fourni les statistiques relatives au nombre de maisons qui sont concernées par cette opération.
Et il n'y a pas eu de promesse d'indemnisation par l'autorité?
Aucune promesse jusque-là.
D'accord.
Aucune promesse, les familles se sentent abandonnées à leur triste sort. Comme je l'ai dit tantôt, leurs enfants passent nuit à la belle étoile. Certains parents ont quitté le site alors que d'autres sont encore là, en train de surveiller les biens qu'ils peuvent récupérer. Aucune promesse d'indemnisation jusque-là.
Merci Plontin Yambinga pour cette intervention. En Ituri, les miliciens de la Codeco et de Zaïre ont causé la mort de 3 personnes en 3 jours dans les territoires de Djougou. Selon des sources sécuritaires et coutumières locales, certaines victimes ont été tuées par balles lors des incursions des assaillants de la Codeco dans la région minière de Mungwalu. Une autre personne est décédée de suite de ses blessures après avoir été torturée et fouettée par les miliciens de Zaïre à Djaïba. Plusieurs autres personnes ont été grièvement blessées. C'est par balle. Martial Kiza, bien mon goût, pour les détails.
Plusieurs exactions des groupes armés locaux sont signalées depuis le week-end dans les territoires du Djougou. Selon des sources sécuritaires, le dernier cas remonte à ce mardi matin à Alouja. Des personnes qui se trouvaient dans leur champ ont été tuées par des éléments de la Codeco. Des sources coutumières rapportent que, dans la nuit de dimanche à lundi, un homme d'une vingtaine d'années est mort à Djaïba, après avoir été torturé et fouetté par des miliciens de Zaïre. Son péché est de n'avoir pas donné sa contribution d'argent hebdomadaire récoltée auprès de la population par ces hommes armés. Lundi, à la Syrie d'Abelkos, des autres personnes ont été grièvement blessées par balles tirées par la Codeco. Mais un jour avant, le dimanche 27 avril, un véhicule de transport en commun a essuyé des tirs en rafale de ces mêmes hors-la-loi à Masikini, sur la route nationale numéro 27. Ces derniers ont grièvement blessé par balles une personne et emporté une somme d'argent estimée à 100 000 francs congolais ainsi que 4 téléphones Android avant de se retirer de la brousse. Bounia Martial Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
Et au nord Kivu, les localités de Bougamba 1 et Bougamba 2, situées dans le territoire de Nyiragongo voisin de la ville de Goma, se vident progressivement. Des familles entières abandonnent leurs maisons et cherchent refuge dans des quartiers relativement sécurisés de Goma. Cette situation est due à une montée inquiétante de la criminalité dans la zone sans perspective de solution. Suivez ce reportage.
Aujourd'hui, la partie nord du village Bungamba 1 est quasiment vide. La majorité de la population a été contrainte de trouver un autre endroit pour s'abriter. Un défenseur des droits humains nous confirme la situation, indiquant que sa propre sœur a dû abandonner son domicile à Bungamba 1 pour retourner sous le toit parental à Goma. De manière régulière, des individus munis d'armes opèrent allègrement la nuit passant de porte à porte. Les maisons sont totalement dépouillées, leurs occupants sérieusement malmenés. De plus, des personnes sont soit tuées ou blessés par balles ou à l'arme blanche lors des incursions. En dépit des coups de feu nourris toutes les nuits, aucune intervention n'est observée. Les habitants s'estiment abandonnés, affirment des témoins. Par ailleurs, les démunis s'organisent pour veiller la nuit à l'extérieur autour d'un feu. Malgré cette initiative, 2 morts ont été enregistrées dans la nuit de lundi à mardi. Une personne a été tuée par des bandits au quartier Mukondo 2, plus au nord de la localité Bungamba 1, et une autre, infirmière de son état, au quartier Ndosho dans la ville de Goma. Ndosho connaît les retombées du banditisme qui sévit dans les localités de Bungamba. Si, pour une frange de la population, il s'avère que la rébellion n'a pas le contrôle de la situation dans cette partie, des cadres de base indexent pour leur part des membres de quelques groupes armés qui rôderaient encore dans certains coins du territoire de Nyiragongo.
Reportage de Jean Gandou. Au sud Kivu, des détonations d'armes lourdes et légères résonnent dans tout le coin de la chefferie de Kaziba, dans les territoires de Walungu. Ce mardi, l'AFC M23 venu de Nyangezi via Mouchéni depuis le week-end attaque les positions FRDC appuyées par les Wazalendo. Les activités sont paralysées, la population traumatisée sous le lit où elle se cache depuis la reprise des combats. La situation est la même dans les territoires de Kabare et Kalehe. Les localités des Kabamba, Kacheke et les hauts plateaux de Kalehe sont secouées par des tirs d'armes lourdes et automatiques. L'aspect humanitaire demeure critique et les dégâts collatéraux sont énormes. Ronelin Timonera nous en dit plus.
Les écoles, les commerces et les travaux champêtres qui constituent les principales activités dans ces milieux ruraux sont complètement bloqués. Les habitants souffrent de faim dans leurs maisons où ils se cachent sous les lits et les autres dans la brousse. À partir de Kaziba, les rebelles progressent vers Minembwe dans le haut plateau de Fizi et les autres en direction de Luinja, siège de la principale société aurifère Twangiza Mining. Deux bombes sont larguées partout sans tenir compte des milliers habités par la population. Les dégâts collatéraux sont énormes, témoignent nos sources sur place, même si elles ne sont pas encore en mesure de fournir les bilans. Dans la partie nord de la province, les territoires des Calais font aussi face à des poursuites des affrontements ce mardi. Les combats sont en cours depuis le matin à Bouchakou entre l'AFC M23 contre la coalition Wazalendo. Les rebelles ne cessent de se renforcer en troupes, en armes et en munitions. La population désespérée s'interroge à quand les retombées de pourparlers de paix engagés entre le gouvernement de la République et les belligérants.
Le comité de récolte de fonds pour les FRDC, structure attachée au gouvernement du Kasaï central, a apporté hier lundi la somme de 14 716 dollars américains et 23 millions de francs congolais aux forces armées de la RDC. Cette enveloppe a été réceptionnée par le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale à Kinshasa. La vice-présidente de cette commission provinciale a expliqué le sens de cette dotation qui, selon elle, s'inscrit dans le cadre de l'effort de guerre et des solidarités aux FRDC engagés au front. Le propos de Nathalie Kambala, recueilli par Blaise Dongala Mayanda.
Nous sommes les comités institués par le gouvernement provincial pour collecter les fonds pour accompagner les FRDC qui sont aujourd'hui au front à l'est du pays d'une guerre nous imposée par les étrangers. Voilà pourquoi le gouvernement de province a dépêché rapidement la présidente de cette commission qui est la ministre des Affaires humanitaires ensemble avec son comité venir ici déposer officiellement la première tranche que nous avons reçue mobilisée par toutes les couches de la population. C'est vrai aujourd'hui nous avons déposé 14 116 dollars américains et 23 414 314 francs congolais que nous avons déposés. Mais l'opération continue parce que l'arrêté qui nous a institué nous avait donné pratiquement 3 mois pour travailler pour ce collecte de fonds. Et lorsque nous avons eu ce premier acompte, nous sommes venus. La joie est que le ministre des Défenses a accueilli avec joie ce geste pour dire que vraiment si tous les Congolais pouvaient faire comme ça, je pense que la guerre va terminer et c'est le Congo qui va gagner.
Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo, a salué ce geste bénéfique en faveur des forces armées de la RDC. Au Kasaï oriental, bonne nouvelle pour les habitants de Mbujimayi. La ligne électrique de la SNEL a été rétablie après 2 mois de coupures à Mbujimayi. Des centaines de maisons résidentielles électrifiées par la SNEL sont de nouveau éclairées depuis le week-end dernier. C'est là après plusieurs rencontres mettant autour d'une même table à Mbujimayi et à Kinshasa, la province du Kasaï oriental, la société d'électricité SNEL et la société Anui Congo d'investissement minier dans le but de décompter le problème des coupures de l'énergie électrique. D'après le ministre provincial de l'énergie et hydrocarbures, certaines recommandations ont été adoptées afin de rendre la SNEL autonome et éviter les coupures brusques de l'énergie électrique sur la ville. Charles Kamanga Kinsenda, ministre provincial de l'énergie et hydrocarbures, a été joint au téléphone par Esther Ndalafina.
La SNEL avait piqué le courant juste sur la ligne qui quitte la centrale de Tubitubiri vers la laverie de Tchoubé, là où il y a l'exploitation minière, la Sassine. Donc le courant n'était pas puisé à la source, donc au niveau de la turbine. C'était un mi-parcours, ainsi que lorsqu'il y avait arrêt de travaux à la laverie de Tchoubé, directement, la SNEL ne pouvait pas accéder à l'énergie parce qu'il y avait surtension. De ces rencontres-là, il y a eu des grandes décisions qui sont sorties. La première décision était que la SNEL puisse payer ses factures à la SACIM. C'est ainsi que la SNEL a dû payer 1 million de dollars. Nous, en tant que province, nous avons recommandé que cet argent soit utilisé pour la rémunération du personnel SACIM. Deuxième résolution, nous avons demandé à ce que la SNEL puisse prendre le courant au niveau de la turbine au lieu de se connecter au niveau de la ligne qui va à Tchibwe. Troisième décision, la province a sollicité de la part de SACIM la centrale hydroélectrique de Mouvonkacha, dont le courant était là, le courant était dormant, non utilisé. Cette centrale a une puissance de 4,25 MW. Donc le courant sera permanent.
Au Kasaï central à Kananga, plus précisément, l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral a distribué des kits de réinsertion socio-économique à plus de 80 femmes vulnérables. Cette aide s'inscrit dans le cadre du projet COICA qui vise à soutenir le développement socio-économique et à améliorer le bien-être des populations dans le pays partenaire. Le projet COICA combine diverses approches allant de la construction d'infrastructures à la fourniture d'équipements en passant par l'envoi d'experts et l'organisation des programmes de formation. Selon la directrice pays de l'ONG Femmes Main dans la Main pour les développements intégrales, les bénéficiaires sélectionnés en fonction de leur degré de vulnérabilité ont reçu une formation sur diverses matières, notamment la comptabilité. Écoutons Nathalie Kambala dans cet extrait choisi par François Kadima.
Après avoir monté des plans d'affaires avec ces femmes bénéficiaires qui ont été sélectionnées, vu le degré de vulnérabilité, nous avons fait 2 jours de formation de ces femmes. Nous les avons formées sur la comptabilité élémentaire, donc comment épargner, comment faire les revenus, comment calculer les bénéfices. Donc il y a eu tout un paquet de formations sur la comptabilité élémentaire. Nous avions la comptabilité sur l'entrepreneuriat, la formation sur l'autonomisation, la formation sur la constitution de mutualité de solidarité, soit de groupement d'intérêt économique, et aussi la formation sur la lutte contre les violences basées sur le genre. On leur a donné cette matière pour les outiller qu'elles puissent être efficaces même dans leurs activités génératrices de revenus. Après, nous sommes passés par l'étape d'achat. L'approche voudra c'est que ces femmes vont acheter elles-mêmes les achats par rapport à leur plan d'affaires, mais accompagnées d'un membre soit de la structure, soit de la division du genre qui coordonne ce projet.
Actualité internationale.
Au Soudan du Sud, nouvel appel ce 28 avril à la libération du vice-président Riek Machar et des autres membres de l'opposition placés en détention par le président Salva Kiir le mois dernier. Cet appel émane de la commission qui supervise la mise en œuvre de l'accord de paix, une commission formée par le bloc régional d'Afrique de l'Est, l'autorité intergouvernementale pour le développement, sorte d'arbitre du processus de paix. La commission a publié hier lundi son rapport trimestriel qui couvre le mois de janvier, février et mars 2025, période pendant laquelle la situation s'est gravement détériorée au Soudan du Sud. Si les violations des cessez-le-feu sont imputées aux deux parties, c'est en revanche le camp de Salva Kiir qui est pointé du doigt concernant les violations dites politiques. Détention de Riek Machar, invitation de l'armée ougandaise sans consultation des autres signataires ou encore remaniement ministériel jugé unilatéraux. Sur le terrain, les combats continuent entre les forces de l'opposition et forces gouvernementales, mais les observateurs de l'accord de paix veulent croire que tout n'est pas encore perdu.
L'invité.
Malgré le contexte sécuritaire difficile dans le Kivu, Médecins sans frontières MSF reste proche des communautés pour remplir sa mission médico-humanitaire. Le représentant pays de MSF en RDC, Emmanuel Rempart, appelle à un plus grand respect pour les travailleurs humanitaires et à une meilleure protection des populations civiles. Il est notre invité dans cet entretien avec Rosalie Zawadi.
Monsieur Emmanuel Rempart, bonjour.
Bonjour.
Vos équipes sur terrain au Nord Kivu sont témoins, mais aussi victimes des exactions commises par des porteurs d'armes. Pouvez-vous nous parler de ces exactions quotidiennes dans cette province?
Ici, il y a lieu avant tout de rappeler que le vendredi 18, encore une fois, nous avons perdu un collègue à l'hôpital général de référence de Mafsissi, tué chez lui, à domicile, à son retour de travail. Ça fait, depuis le début de l'année, le troisième collègue que nous perdons ainsi. Qu'à cela s'ajoute aussi ce que nous avons vu au courant du mois d'avril à Walikale, où lors de la prise de Walikale et aussi après, l'hôpital a souffert des impacts de drones très proches. Également la base logistique et plusieurs véhicules qui assurent le transport des malades étaient touchés.
Sur terrain, vous assistez à différents types d'exactions. Il vous arrive de monitorer aussi ces différents cas?
Oui, bien évidemment, bien que ce n'est pas le rôle principal des Médecins sans frontières, mais témoin des conséquences du conflit armé, nous avons effectivement le devoir d'en témoigner. Non seulement il s'agit des structures médicales, mais aussi la sécurité de ceux qui, en l'occurrence, retournent vers les territoires. Je crois que leurs différents droits, et notamment le droit à l'accès aux soins, le droit à la vie tout court, le droit à la dignité humaine, doit être assuré.
Quelles sont aujourd'hui les actions de MSF en faveur des populations victimes des guerres au Nord Kivu?
Les Médecins sans frontières sont présents dans le Nord Kivu depuis plusieurs années. Quand on cite les projets de Walikale, on soutient l'hôpital général de référence, plusieurs centres de santé, également Massissi et Mouesso, les deux zones de santé dans le territoire de Massissi, cela fait plus de 15 ans. Ajoutons à cela notre présence auprès de certains services hospitaliers à Rutshuru, également à Kibirizi, Bambo. Voyez là un peu l'empreinte médico-opérationnelle qui est présente bien avant cet énième épisode et cette fois-ci sans précédent qui touche la population, les besoins les plus pressants de la population. Aujourd'hui, avec la non-opérationnalité du programme élargi de vaccination, malheureusement, la rougeole frappe, l'insécurité alimentaire donne des cas de malnutrition. Et bien évidemment, en proximité avec le lac et la ville de Goma, la même chose vaut aussi pour la ville de Bukavu.
Quel message avez-vous aux porteurs d'armes pour une bonne protection des populations civiles, mais également les travailleurs humanitaires?
Mais je crois qu'il va de soi que la protection de la population civile, le respect pour le corps médical et tout ce qui a trait au droit humanitaire international doit être assuré. Ce que les Médecins sans frontières viennent de témoigner, la perte d'un troisième collègue, c'est sans équivoque. Cela doit cesser. Ceci était intolérable. Et cela témoigne encore une fois, comme nous l'avons évoqué, que non seulement témoin des violences, de certains climats oppressants, mais surtout d'une violence qui nous touche dans la mission médico-humanitaire.
À part la sécurité, à quels autres défis vos équipes font face sur terrain au Nord Kivu?
Mais je crois aujourd'hui dans les Kivu, il y a toute la difficulté. Zone contrôlée, gouvernée par le gouvernement central, ou en tout cas ses représentants, zone contrôlée, gouvernée, ou en tout cas avec la mise en place d'une administration propre, tant à Goma, tant dans le sud Kivu et dans les territoires dites contrôlés. Cela, pour le moment, manque une clarté de part et d'autres. Ça ajoute des barrières à la mise en œuvre de la mission médico-humanitaire. Cela ajoute des barrières à garantir l'accès aux soins avec efficience. Je crois les cadres qui sont là et qui engagent notamment les Médecins sans frontières en République démocratique du Congo nous engagent. Et c'est ça le cadre dans lequel davantage nous souhaitons toujours rester à côté de la population et des bénéficiaires.
Monsieur Emmanuel Rempart, merci.
Merci à vous, madame.
Emmanuel Rempart, représentant pays de MSF en RDC, dans cet entretien avec Rosalie Zawadi. Merci d'avoir été avec nous pour cette édition, mise en onde par Alain Ngoy, coordination Élisée Chikota, supervision Martin Sebujangwe, présentation Gisèle Cage. Nous espérons que les informations partagées avec vous ont été utiles. Restez connectés avec nous sur nos réseaux sociaux et vous pouvez également consulter notre site web www.radiocapi.net. À la prochaine sur la même fréquence.